Radio Django à écouter sur radio.django.fm.
La Rose des Vents vous propose de découvrir ce soir un documentaire réalisé sur l'Ukraine. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir Fabien. Bonsoir Emmanuel.
Mais on en a déjà parlé il y a quelques semaines sur Django. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de parler en détail de ce réalisateur. Vous l'avez dit. Bonsoir Emmanuel Graff.
Bonsoir.
Voilà, cette fois-ci, le micro est ouvert. Soyez le bienvenu sur Radio Django. Vous êtes à l'origine donc d'Alsace-Lorraine. Vous arrivez en Suisse en 1979. 1979, vous comprenez mieux ?
Je suis bilingue.
Ah voilà, bilingue. Parfait. Et vous poursuivez des études de socio-anthropologie à Lausanne. L'interculturel vous passionne et l'Ukraine particulièrement ?
C'est assez récent, mais oui.
D'ailleurs, vous êtes très actif au sein de la communauté ukrainienne de Lausanne. Vous fondez en 2014 l'ACRU, l'association culturelle Romandie Ukraine. Alors Emmanuel Graff, vous êtes l'auteur, on l'a dit, de ce documentaire que vous venez de terminer, intitulé Carnet d'Ukraine, un film documentaire qui propose un voyage entre la France, la Suisse et l'Ukraine. Ce film qui vous a occupé pas mal de mois, j'imagine, on aura l'occasion d'en parler, et il nous intéresse même ce soir. Comment est né ce carnet d'Ukraine, Emmanuel Graff ?
Alors, il est né... Je me suis rendu compte dans ma vie, il y a 2-3 ans, que l'Ukraine avait pris une importance centrale, petit à petit. D'abord, parce que j'avais comme directeur... Je travaillais dans un centre social, hein, aussi, accessoirement, dans le canton de Vaud. Le directeur que j'avais avait monté une ONG qui avait des activités en Ukraine. Ensuite, dans ma région d'origine, vous l'avez nommé l'Alsace-Lorraine, un peu par hasard, je rencontrais des historiens qui travaillaient sur l'histoire des Ukrainiens en Lorraine. Et c'est une histoire assez invraisemblable, qui est assez peu connue. Dans ma vie privée, j'ai rencontré ma femme qui est ukrainienne. Et enfin, il y avait plein de choses et c'était l'Ukraine qui était toujours là. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Voilà, c'est un signe, on peut le dire, oui, absolument.
C'est le hasard du réel, comme vous le dites.
Voilà, le hasard du réel, un fabuleux réel, oui.
Carnet ukrainien propose un voyage entre la France, la Suisse et l'Ukraine à travers 4 portraits. Comment s'est construit ce documentaire ? De qui et de quoi parle-t-on ?
Alors, j'ai pris les différents éléments dont je viens de vous parler, hein, et je me suis dit qu'ils étaient chacun assez différents, mais qu'ils avaient tous, qu'ils interrogeaient tous notre regard sur les pays de l'Est et sur les gens de l'Est, un regard qui est un peu, pas vide, mais très interrogatoire. On ne sait pas très bien qui sont les Européens de l'Est. Et je me suis dit que ces quatre histoires-là, elles pouvaient contribuer à mieux faire connaître les Ukrainiens de France, de Suisse et les Ukrainiens d'Ukraine, parce que je m'occupe aussi dans ce film à moitié des diasporas, soit d'Alsace-Lorraine, soit de la région lémanique.
Voilà. Mais quelle est la particularité de ces quatre portraits ? Parce que chacun a une histoire bien spécifique. Est-ce que vous pourriez revenir sur les quatre portraits de manière succincte ?
D'accord. Alors, le film commence par la rencontre en Lorraine d'un historien lorrain qui rencontre donc une sportive de haut niveau d'origine ukrainienne qui joue dans le club de la ville de Metz pour lui raconter une partie de l'histoire de l'Ukraine qui s'est passée en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu pendant 1942-1943 des camps. Un Lorrain sur 7 était slave entre 1942 et 1945. Je passe les détails, mais c'est vrai que l'armée nazie avait remplacé les hommes lorrains qui étaient absents par des soviétiques, donc des gens d'Ukraine, de Russie, de Pologne, etc. Et donc l'histoire de l'Ukraine, elle s'est jouée en partie ici.
C'est-à-dire qu'il y a
des camps où sont morts des dizaines de milliers d'Ukrainiens. Et c'est une histoire extrêmement méconnue, même en Lorraine même, et qu'on redécouvre ces derniers temps. Donc j'ai provoqué la rencontre entre un vieil historien de 70 ans, un Lorrain, et puis une jeune sportive de 25 ans, très connue en Ukraine. Et ça donne une rencontre intergénérationnelle et internationale sur un point précis de l'histoire, une histoire qui est très peu connue, mais qui est bouleversante. Quoi.
Et ensuite, vous êtes partie de ce portrait à une autre histoire, celle d'Anna.
Voilà, alors Anna, c'est le chapitre 4. Anna, c'est vrai que le dernier chapitre, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, je vais filmer mon quotidien. Mon quotidien, c'est le quotidien que je partage avec Anna, qui est donc de l'est de l'Ukraine. Et je trouve passionnant les vies des migrants, aussi bien dans les détails quotidiens, par exemple, comment on reste en contact avec sa famille, par les moyens modernes, etc., qu'il n'y avait pas il y a 10, 15, 20 ans, les allers-retours entre le pays d'origine, etc. Comment Est-ce qu'on se débrouille aussi dans le pays d'accueil à passer le choc, parce que bon, toute migration est une forme de violence. Donc après, comment on se lève, comment on tient debout et comment on avance. Et ça, j'ai vu, dans mon appartement, j'ai vu mon épouse avoir le choc, se lever et puis avancer. Et je voulais raconter ça à travers ces allers-retours qu'elle fait entre Lausanne et Kharkov, sa ville d'origine. Je trouve que la vie quotidienne des migrants est assez peu connue, quoi, dans ces petits détails quotidiens.
Et c'est pour ça que...
Et moi, je l'ai sous les yeux.
Et c'est pour ça que ce documentaire a donc la particularité de partir de portraits précis pour évoquer des sujets beaucoup plus vastes. Vous êtes anthropologue de formation et vous parlez d'un fait social total. Mais de quoi s'agit-il ?
Bon, alors, j'ai fait un vol. En fait, j'ai volé un concept d'anthropologie que j'ai un peu appliqué à mon film. En fait, un fait social total, c'est un fait dont on peut dire qu'il a des ramifications multiples, historiques, en l'occurrence linguistiques, puisqu'en Ukraine, on touche toujours au problème de la langue, culturel, politique, quelquefois religieux, puisque les Ukrainiens sont assez souvent pratiquants, etc. Enfin, c'est un fait qui a de multiples ramifications, donc des angles d'attaque différents possibles. Moi, j'ai voulu réunir un peu tout ça, parce que c'est vrai que dans le chapitre 4 qui fait la moitié du film, on voit énormément de scènes d'église, mais on voit aussi énormément de discussions sur la langue, on voit énormément de discussions politiques, on passe au Maïdan, qui a été aussi un élément décisif pour faire ce film, c'est qu'on est passé. C'est que j'ai la chance incroyable d'avoir vécu une révolution populaire. C'est rare de pouvoir, dans la vie de quelqu'un, traverser une chose pareille. Et c'est extrêmement puissant à vivre, quoi. Ça,
je peux vous parlant du Maïdan, on pourrait aussi s'interroger justement sur les relations Est-Ouest. Et qu'est-ce que vous a appris ce documentaire ? Finalement, quel regard on porte en tant qu'occidental sur l'Ukraine et l'Europe de l'Est et vice-versa ?
Oui, alors comme je le disais, bon, moi, le regard que j'avais, c'était le regard, je pense, d'un lambda européen, c'est-à-dire que je ne savais pas, je savais que les Ukrainiens étaient d'anciens soviétiques, mais je n'en savais pas beaucoup plus. J'avais quelques clichés dans la tête dont j'essayais de me débarrasser tout seul, etc. Mais c'est vrai que...
Quel genre de clichés est-ce que vous pouviez avoir à l'endroit des Ukrainiens ?
C'est difficile à dire. Enfin, je crois que c'était tellement peu consistant que je ne m'occupais pas des clichés. Je suis allé en Ukraine vraiment, je crois, l'esprit vide et prêt à tout découvrir.
Mais est-ce que vous pensez que ces clichés font partie de ce qu'on appelle l'imaginaire collectif ?
Oui, je pense. Oui.
Est-ce vous pourriez nous donner un ou deux exemples de manière à ce qu'on puisse se situer des deux côtés de la frontière ?
Bon, moi, quand je suis arrivé la première fois à Kharkov, c'est vrai que les clichés se sont vérifiés. C'est-à-dire, ils habitent tous dans des bars soviétiques, il n'y a pas de concierge... Les rues sont trouées, etc. Mais ça, c'est des clichés à la limite secondaires, puisque ça tient pas à la façon dont on regarde les gens. Mmh. J'avais un gros point d'interrogation par rapport aux gens. Je pensais qu'ils avaient des vies de voisins, des vies de voisinage, par exemple, très fortes, ou un système des très forts, et ça s'est vérifié. Mais encore une fois, c'est même pas tellement un regard sur les gens, c'est plutôt sur les pratiques. En fait, je ne savais rien des gens eux-mêmes. Et j'ai découvert, évidemment, énormément de choses, puisque j'étais en famille chez un...
C'est des gens qui sont très discrets ? Globalement, les Ukrainiens.
Il y a une grosse discrétion, il y a une pudeur, il y a une... Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas des gens très démonstratifs. Par exemple, les premières conversations que j'ai eues en famille, dans sa famille, etc., c'est pas des gens très exubérants, contrairement à ce qu'on dit toujours. Ils peuvent aller très très loin dans la folie, mais de manière générale, ce sont des gens très discrets, très, très humbles.
Mais en tant que fondateur de la CRU, vous côtoyez des Ukrainiens en Suisse. Au travers de ce film, vous avez également rencontré plusieurs Ukrainiens, que ce soit en Ukraine ou en France. Finalement, quel est le regard des Ukrainiens sur l'Ouest ? Il y a comme un mythe qui est en train de s'effondrer, je pense.
Alors, il y a un malentendu. C'est vrai que, par exemple, je vais essayer de répondre à cette question-là en la prenant dans l'autre sens. On a souvent pensé que les Ukrainiens, et de manière générale les gens de l'Est, étaient fous d'Europe et étaient fous d'entrer dans l'univers européen et dans l'Europe politique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens de l'Est, les Ukrainiens en l'occurrence, puisqu'on parle d'eux, sont très, très, très attachés à leur pays, à leurs racines. Ils sont fascinés par l'Europe dans la mesure où ça peut leur apporter un état de droit, c'est-à-dire une forme de respect pour le citoyen et l'individu. Et c'est ça que l'héritage soviétique n'a pas transmis, puisque c'est pas cet héritage-là. C'est un respect pour le droit, un respect pour la propriété privée, une chose qui est relativement mal connue à l'est de l'Europe, et un respect pour l'individu. C'est pour ça qu'on a appelé le Maïdan la révolution de la dignité. C'est enfin qu'on s'occupe des individus.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question de génération ? Parce que dans le documentaire, lorsque vous présentez cette famille Lorraine, qui est d'origine ukrainienne, il parle de ce mythe du passé.
Oui, alors ça, effectivement, ça, c'est la diaspora française. Alors, c'est encore autre chose, parce que la diaspora française, elle est héritée des années 20-30. Et ce sont des gens qui ont fui soit la guerre, soit le communisme, et qui sont là depuis 4 générations, et qui ne sont pas retournés en Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine soit indépendante. Donc, c'est un peu comme les Slovènes aussi dans l'Est, et les Polonais. Ce sont des gens qui redécouvrent leur pays, mais 2 ou 3 générations après, et qui l'ont un peu mythifié, et qui l'ont conservé un peu dans un bocal, avec des vieilles chansons qu'on ne parle même plus dans l'Est de l'Europe, etc. Et le regard est biaisé. Alors, quand ils rencontrent la nouvelle génération qui forme la nouvelle diaspora, ils sont en face de l'Ukraine moderne. Et puis, ça donne des dialogues très intéressants, mais c'est quelquefois décalé, quoi.
Et finalement, la question de la migration donc reste au cœur de votre film. Et pensez-vous que les migrants d'aujourd'hui ont la même histoire que celle d'hier ? Et qu'est-ce qui aurait changé finalement dans ce parcours de migration ?
Oui, alors quand on compare effectivement les diasporas lausannoises et les diasporas lorraines, alors c'est ce que je viens de dire, on a affaire à des époques extrêmement différentes. Les Ukrainiens qui sont arrivés dans les années 30 dans le nord de la France se sont rués dans les bras de l'industrie parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'il fallait nourrir les familles, etc. Et ils avaient des parcours collectifs, c'est-à-dire qu'ils arrivaient souvent en famille, etc. C'était une fuite. Maintenant, on vient souvent avec un projet. Ça peut être des projets individuels, ça peut être... Bon, alors on connaît aussi l'histoire des couples mixtes, etc. Mais c'est des trucs beaucoup plus construits. Par contre, il reste, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre sur une ONG qui combat l'exploitation humaine, il reste une petite partie des gens qui viennent par désespoir et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et ça, c'est dramatique parce que ça perdure.
Emmanuel Graff, finalement, vous nous dites que votre film est en 4 volets. Quelle est la durée de ce documentaire ?
90 minutes, 90 si vous voulez.
Merci. Tout à fait normal. Et où est-ce qu'on peut le voir ? Si on a intéressé à le visionner.
Alors, j'ai projeté récemment à la Maison de Quartier la version originale, donc la VO. Ah. Donc, la moitié du film est encore en russe ou en ukrainien. Mmh. Et on travaille ce mois-ci à un sous-titrage, mais qui est pénible parce qu'en fait, il y a 3 langues. Il y a le russe, l'ukrainien et le français. Donc, on pense que dans 2 mois, on aura une version parfaitement trilingue.
Eh bien, c'est parfait. Suivez Radio Django, puisqu'on vous tiendra informé de la suite de ce documentaire. Merci beaucoup, Emmanuel Graff, d'être venu nous parler de votre documentaire de la famille, du cinéma, du réel. Et notez encore que La Crue nous fera découvrir en juin, dans La Rose des Vents, le parcours d'un poète engagé, Taras Chevtchenko. Enfin, pour clore ce sujet sur l'Ukraine, un petit bout d'une musique typiquement ukrainienne avec les instruments traditionnels, La Bandoura, une chanson choisie par Anna Klimatova, l'héroïne de Carnet ukrainien.